Les cinq livres de la Torah, ou Pentateuque, qui sont la source des innombrables religions et sectes abrahamiques dites du livre, souvent détournées de leur véritable sens par quantité de courants dérivés, sont Bereshit, ou Genèse, Shemot, ou Exode, Vaïkra, ou Lévitique, Bamidbar, ou Nombre, et Devarim, ou Deutéronome. Bereshit veut dire « au début ». Shemot veut dire « nom » au pluriel. Vaikra veut dire « il aura déclaré ». Bamidbar veut dire « dans le désert ». Et Devarim veut dire « parole » au pluriel. Les noms, c'est ce qui permet de désigner les choses. Nous pouvons ainsi comprendre que Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim désignent l'expression « au début ». Il y avait les choses. Il aura déclaré, Hachem, dans le désert, les paroles de la création, c'est-à-dire les instructions. Au-delà des objets et des êtres de l'univers, la vie est constituée des choses suivantes. Les contrôles des réalités et des échanges. Ce sont les jeux ou systèmes, acteurs et spectateurs. Les connaissances des communications et des expressions. Ce sont les activités ou processus, les programmes et les buts. Et les responsabilités des affinités et des interactions. Ce sont les messages ou événements, les instruments et les outils. Toute chose est un système qui fonctionne par processus et événements. Bereshit, c'est la lumière, le jour de la création, c'est le feu. La lumière est le feu créateur et destruction. Ce livre correspond à l'embryogenèse physique et spirituelle. Shemot, c'est les ténèbres, la nuit de la sortie. C'est l'eau. Les ténèbres sont l'eau originelle de la vie. C'est le livre de l'accouchement physique et spirituel. Vaikra, c'est le firmament, le ciel de la destinée. C'est l'éther. Le firmament est l'éther qui soutient le champ vital. C'est le livre de l'éducation physique et spirituelle. Bamidbar, c'est le sec, la terre de la solitude. Le sec est l'aridité solide de la terre. C'est le livre de la formation physique et spirituelle. Et Devarim, c'est les eaux, la mère de la parole, l'élément air. Les eaux sont les myriades du flot des mots portés par l'air du vent. C'est le livre du travail de la sagesse. Si on sélectionne chaque premier et dernier mot de chaque livre, on obtient cinq versets codés, dont la traduction est la suivante. Premier livre. Pour départ. Pour Mitzrayim. Le départ est le commencement. C'est de là où l'on vient, et il ne faut jamais l'oublier. Deuxième livre. Lorsque affliction marche vers Israël, c'est Pessah. Troisième livre. Hachem aura invoqué Sinaï. Une lettrique du mot Sinaï est alliance du pouvoir de la paix de Hachem, grâce à sa main puissante, qui libère de l'esclavage et de l'ignorance. Quatrième livre. Hachem aura enseigné la Torah. Ils respireront, les enfants d'Israël. Cinquième livre. Affliction de Israël. En effet, Israël est affligé à cause des paroles des Varim, et plus précisément des paroles du mal, c'est-à-dire des mauvaises paroles, ou lachonara, le langage du mal, qui est au-delà du simple parler incorrect et ignorant, la parole des méchants et des criminels qui convoitent et nuisent, car cette parole a pour but de transgresser la loi en vigueur, humaine comme non humaine. Le premier mot et le dernier mot de la Torah forment Bereshit Israël, soit pour début de Israël, indiquant ainsi qu'Israël provient de la Torah et non l'inverse. Tout le résumé de la Torah se trouve dans les mots Bereshit bara Israël. Si on prend la première lettre des mots Bereshit et Israël, on obtient la racine Bet Yud, qui signifie, en lettrique, la demeure de la flamme de vie, ou encore la maison de la paix. L'acrostiche formé par la 50e lettre, c'est-à-dire la lettre Nun, le pouvoir, de chacun des 5 livres est Lamed Shin Aleph Nun Samek. Lamed Shin, c'est le mouvoir, la transmission du souffle. Aleph, c'est le maître, le potentiel du principe originel. Nun Samek, c'est le miracle, la fécondité de l'ovule. Ce mot désigne donc la création de l'unité de conscience. L'acrostiche formé par la 6e lettre de chacun des livres, c'est-à-dire Vav, la communication, et Tav Mem Aleph Yud Bet. Tav Mem, c'est l'intégrité, la perfection du service. Aleph, le maître, le potentiel du principe originel. Yud Bet, c'est la manifestation, l'énergie du temple. Ce mot désigne donc la justice. L'acrostiche formé par la première lettre de chacun des livres, c'est-à-dire Aleph, le potentiel, et Bet Shin Vav Bet Dalet. Bet Shin, c'est ce qui fait rougir, la maison du souffle. Vav, c'est la communication, la lumière dirigée. Bet Daled, c'est étoffe de lin et maison de l'étudiant. Ce mot désigne donc l'alchimie du biochamp humain. Les 10 commandements sont les 10 paroles majeures de la Torah. Ils correspondent fondamentalement aux grandes variations principales du mensonge et de l'illusion que sont l'ignorance, le symbole, la futilité, le stress, le rejet, la guerre, l'altération, le vol, la tromperie et la convoitise. Premier commandement. Je suis Hachem ton Elohim parce que je te délivrerai de l'affliction. Il est écrit en Shemot 20.1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, il est écrit « Il aura parlé Elohim avec toutes les paroles de l'affliction en disant « Je suis Hachem Eloheka, parce que je délivrerai toi du mal, à cause de terre de Mitzraïm, à cause de maisons de travailleurs. » Le « je » employé indique que c'est la doctrine et rien ni personne d'autre que ceux qui suivent la Torah qui fait cela. Mitzraïm, c'est le monde de l'oppression, et la maison des travailleurs, c'est la maison de ceux qui bâtissent et entretiennent Mitzraïm, en l'occurrence. Il a été dit dans les exposés précédents et notamment sur le schéma Israël que le mot Eloheka comporte un Yud de la première personne désignant Moshe, car Moshe et la Torah ne font qu'un, et sa transmission depuis Elohim jusqu'au lecteur se fait grâce au scribe Moshe. Comme c'est Elohim qui parle ici à la première personne, on peut comprendre cela et résoudre le paradoxe linguistique en considérant que si Elohim déclare « Je suis Hachem de Eloah à moi et à toi », c'est parce que Hachem est une force provenant de Elohim et que c'est la seule force qui fait exister l'être humain. Les paroles de l'affliction sont les paroles de la Torah elle-même, et plus particulièrement le 5e livre qui résume toute la Torah en décrivant les mécanismes de l'oppression et les conséquences du respect et de la transgression de la doctrine. Ces paroles sont Hachem lui-même, car la source de la souffrance est le mal inhérent à Hachem, qui en est aussi l'antidote. La loi numéro 1 est de connaître Hachem qui libère du mal grâce au don de la Torah. Commandement numéro 2. Tu n'auras pas d'autre Elohim en ma présence. Il est écrit en Shemot 20.3 à 6 « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Littéralement, depuis l'hébreu, mot à mot, nous avons « Ne pas, il sera sur toi un Elohim des étrangers à la Torah, parce que crainte à moi, Hachem, que tu fasses du mal. » C'est ne pas idolâtrer, ne pas vouer un culte à un ou plusieurs personnages de fiction comme réels, ne pas corrompre la vérité et ne pas altérer la vérité. L'idolâtrie perturbe les voies fonctionnelles des cellules et égare dans l'ignorance de Mitzraïm en faisant croire à l'individu que quelque chose d'autre que l'être humain lui-même et les lois de l'univers et de la vie ont pouvoir sur lui. Le terme hébreu pour sculpture, Pesamek Lamed, dont une électrique serait « expression des pulsions éduquées », indique la notion d'image taillée et modelée et désigne les statues qui sont sans vie. Le terme hébreu pour « image », Tav Mem Vav Nun E, dont une électrique serait « synthèse de la formation communiquant le pouvoir du souffle », indique la notion de ressemblance ou de copie et désigne les dessins qui représentent un imaginaire ou une réalité. Certaines formes de relations maître-disciple, c'est-à-dire enseignant-étudiant, procèdent de la taille d'une image ou de la copie imposée du mode de pensée. Le vrai but de cette relation est le contraire. Elle relève du dressage pour un but déterminé, bon ou pas. La loi numéro 2 est de ne pas vénérer des symboles. Commandement numéro 3. Tu n'invoqueras pas le nom de Hachem ton Elohim en vain. Il est écrit en Shemot 20.7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Littéralement, nous avons « Ne pas tu duperas avec gloire de Hachem Eloéka pour destruction, parce que ne pas il laissera impuni Hachem, lui aussi il dupera avec gloire à lui pour destruction. » Il s'agit de ne pas servir des buts qui servent à rien et donc qui servent le mal. Si les humains utilisent la fausseté, la corruption, le mensonge, la discordance et la polémique, Hachem, lui, utilise la sincérité, la générosité, la vérité, la concordance et l'entente. Les grands et puissants méchants qui connaissent les paroles de la Torah œuvrent à la duper et ils veulent démontrer qu'elle est fausse, qu'elle n'est pas sûre et qu'elle ne fonctionne pas. Certes, ils peuvent détruire, faire souffrir et tuer, mais ils ne peuvent pas obtenir leur but final car c'est comme s'ils essayaient de démontrer que la force de gravité est une supercherie en laquelle on ne peut pas avoir confiance pour nous faire vivre sans être défragmenté ou pour tomber lorsqu'on trébuche. La punition dont il est question est la Teshuvah, qui est la seule sanction divine légale, car hormis les accidents, les catastrophes naturelles et les maladies, qui ce ne sont ni plus ni moins des choses résultant des lois du genre de celles qui font tourner les astres et fusionner les gamètes, tous les châtiments proviennent des ignorants et des méchants. Certains qui n'aiment pas la Torah, qui la méprisent et qui la haïssent en toute connaissance, sont dangereux, car ils n'aiment pas la vie elle-même, ni même la justice. Ils n'aiment pas les humains. Ils aiment leurs possessions et leurs pouvoirs. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment leur famille et leurs amis. Mais ils n'aiment pas les gens en général. Ils n'aiment pas la société et la civilisation. Alors ces gens qui connaissent la Torah mais qui ne veulent pas s'y soumettre, luttent contre elle en vain. Ils la trahissent en vain, sur le long terme, parce qu'ils luttent contre les règles qui conditionnent leur existence et leur aptitude, et plus ils luttent contre la vérité, plus ils luttent contre les mensonges colportés par eux-mêmes sur la doctrine qui est dans le texte originel et en vérité un exposé de science globale de la vie humaine. Et ils finissent même par oublier qu'ils ont inventé ces mensonges, eux et leurs ancêtres. Ils les ont fabriqués, par convoitise du pouvoir et de l'argent. La loi numéro 3 est de ne pas utiliser Dieu et la doctrine pour duper afin de contrôler dans le but de nuire et de détruire des vies. Commandement numéro 4. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Il est écrit en Shemot 20.8-11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le mot sanctifié est traduit depuis l'hébreu kadash, kouf, dalet, shin. Ce verbe signifie être purifié, être mis à part, se montrer. Une électrique serait libération de la faiblesse de la chair. Le mot shabbat, shin, bet, tav, veut dire cessation de l'activité. Une électrique serait force de la volonté accomplie. La loi numéro 4 est de se reposer régulièrement pour ne pas s'épuiser. Commandement numéro 5. Honore ton père et ta mère. Il est écrit en Shemot 20.12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Littéralement, Hachem a amplifié avec père de moi à toi et avec mère à toi, à cause du témoignage. Je prolongerai tant de moi à toi, à cause de le terrain que Hachem Eloheka il a donné à toi. Le père de moi à toi, c'est Moshe. La mère à toi, c'est Sarai. Le temps dont il est question, en sous-entendu, c'est le temps de vie, en référence au rallongement des jours de vie, en respectant la doctrine. Ainsi, Hachem allonge la durée de vie, il amplifie la durée de vie, le temps de vie. Avec père de moi à toi, comme c'est Moshe qui écrit, Hachem, c'est le père de Moshe et c'est le père du lecteur qui étudie la doctrine. La mère à toi, Sarai, c'est sa femme, son aide. La tradition enseigne que ce commandement est d'honorer la lignée, de ne pas la déshonorer, de ne pas ignorer sa détresse et de ne pas l'abandonner dans l'infortune. Le Ben Ish Chai Halakot indique que c'est fournir à manger et à boire, ainsi que des habits et des couvertures, et aider à se déplacer, de la manière dont on servirait des maîtres avec courtoisie. C'est prendre soin d'eux selon ses possibilités. La législation actuellement en vigueur précise que ces obligations sont également pour les parents envers les enfants mineurs et les enfants majeurs vulnérables. La science médicale enseigne que lors de la fécondation, les centrioles du centrosome proviennent du père et les mitochondries proviennent de la mère. Leur rôle dans le phénomène de la respiration est fondamental. Nous pouvons constater que la traduction littérale change le mode de lecture et nous renvoie au don de la Torah par Moshe grâce aux mages, à la jeunesse et à Yitzhak. Le mot mère employé ici, Aleph Mem, est une racine signifiant matrice formatrice, principe nourricier, et une électrique serait espace de la formation. Le scribe Moshe est le père du lecteur, et la doctrine de la Torah est sa mère également, on peut le comprendre, et personne d'autre. Il n'est pas ici question de parents biologiques et ou sociaux. Plus exactement, Moshe, le principe masculin émetteur, et le Sefer Torah dans son intégralité avec toute sa connaissance, tandis que Sarai, le principe féminin récepteur, est le point de vue sur la Torah qui a été reçu par le lecteur grâce à l'aide de sa femme. C'est pourquoi les rabbins disent que si la Torah est tout par-dessus tout, chacun a sa propre Torah, et aucune n'est identique car unique, car chacun est unique. Le don de la Torah entraîne la conquête par le lecteur de son propre corps et esprit, et lorsqu'il est agréé, augmente de fait la présence de la doctrine dans le monde. Le temps ou la durée de moi à toi représente la durée d'action de Hachem qui fait exister le lecteur. En d'autres termes, la durée de vie de l'ADN sera augmentée, non pour les faire souffrir, mais pour rendre heureux l'être de participer à augmenter la présence de la doctrine dans le monde en ayant reçu et accepté le don de la Torah. Afin de ne pas heurter tant l'esprit religieux que l'esprit réfractaire conditionné à la traduction classique de ce verset depuis sa naissance par une masse pesante de pensées ancestrales englouties par les siècles, disons à l'aide d'un inoffensif petit tour de passe-passe que le respect des parents et des enfants relève de l'estime et du mépris, et que ces deux choses prolongent ou raccourcissent la durée de vie en évitant les problèmes ou en les favorisant, tant pour soi que pour les autres. La loi numéro 5 est la conséquence bénéfique du don de la Torah qui est l'estime résultant du respect de la doctrine. ce qui inclut le respect de tous les êtres vivants, de tous les êtres humains, et donc de ses parents, et de ses enfants, et de toute sa famille, et de tout le groupe où l'on est, et de tout le pays où l'on est, et de tout le monde où l'on se trouve. Commandement numéro 6. Tu ne commettras pas de meurtre. Il est écrit en Shemot 20.13 « Tu ne tueras pas ». Littéralement, « Tu ne commettras pas de meurtre ». C'est ne pas blesser et ne pas assassiner, comme Caïn qui frappe jusqu'à la mort. Abel. Abîmer volontairement est le début d'un meurtre. La peine de mort, comme toute chose qui cause volontairement la mort, y compris la non-assistance envers qui que ce soit, est interdite par la Torah. La foi en cette assertion implique de savoir que le bon pouvoir maîtrise les criminels et les fous avec des méthodes non nuisibles. Ceux qui disent que la religion autorise le meurtre et que cette chose est autorisée par Dieu, et ceux qui disent que commanditer un assassinat pour ne pas le causer soi-même ou que manipuler les choses pour ne pas être démasqué est permis, ne sont que des méchants qui ne servent que des mensonges qui ne se trouvent pas dans le texte original, qu'ils utilisent comme justification illégale à leurs actes. Une lettrique du verbe tuer, ratsach, resh tzadechet, serait solitude de la destinée de la créature, c'est-à-dire ne plus exister, c'est-à-dire disparaître. La loi numéro 6 est de ne pas détruire un être humain depuis la blessure jusqu'à la mort. Commandement numéro 7. Tu ne commettras pas l'adultère. Il est écrit en Shemot 20.14 « Tu ne commettras pas d'adultère ». Littéralement, « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est ne pas prostituer, ne pas tromper, ne pas duper, ne pas comploter, ne pas mentir par omission et ne pas altérer la réalité et la vérité. Tromper et duper engendrent la non-confiance, l'éloignement et la rupture des interactions. Le mot « commettre un adultère » « naaf » « adultère » Nun Aleph P. Une lettrique serait « pouvoir du silence de la création ». C'est la chute du couple dont la confiance est brisée par le secret. La loi numéro 7 est de ne pas trahir autrui. Commandement numéro 8. Tu ne commettras pas de vol. Il est écrit en Shemot 20.15 « Tu ne voleras pas ». Littéralement, tu ne commettras pas de vol. Le mot a le sens de dérober, prendre et obtenir, par la ruse essentiellement. C'est ne pas dérober, ne pas séquestrer autrui et ses biens, et ne pas lui prendre la part que la vie et l'univers lui donnent. C'est payer le service qui est fourni, payer le salarié en son temps, et ne pas marchander au préjudice du vendeur. La loi numéro 8 est de ne pas voler autrui. Commandement numéro 9. Tu ne témoigneras pas avec un ami à toi qui est un faux témoin. Il est écrit en Shemot 20.16. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Littéralement. Tu ne témoigneras pas avec un ami à toi qui est un faux témoin. C'est ne pas faire de fausses déclarations, ne pas conspirer et ne pas être hypocrite. Cela concerne l'association avec ce qu'on appelle les omémim, les témoins faux. Voir le Talmud traité Makot au début. La loi numéro 9 est de ne pas être d'accord avec les menteurs. Commandement numéro 10. Tu ne convoiteras pas ce qui est à autrui. Il est écrit en Shemot 20.17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Littéralement. Tu ne convoiteras pas maison de ami à toi. Tu ne convoiteras pas femme de ami à toi, ni travailleur à lui, ni groupe d'amis de lui, ni ennemi à lui, ni vain à lui, ni tout ce qui est ami à toi. C'est se satisfaire de sa juste part et c'est ne pas envier ce qui appartient à autrui, y compris la possession de son corps et de son âme. La loi numéro 10 est de ne pas désirer être à la place d'autrui. Car ainsi, sinon, on ne serait plus soi-même. Et ne pas être soi-même, c'est être possédé. Ces commandements de la Torah sont les lois et les règles pour la civilisation. Ils sont logiques, évidents et scientifiques. Ce sont les lois qui décrivent les modes d'action du bien et du mal, du libre choix et du libre arbitre et du pouvoir. Suivre ces commandements, en faire des habitudes de vie, un code de conduite, c'est le bien, c'est survivre et c'est faire survivre. Suivre la Torah, c'est vivre et agir en sachant ce que l'on fait. C'est savoir pourquoi on fait telle ou telle chose, même si on ne sait pas et qu'on étudie. Car elle dit, la Torah, au mal, non. Le mal, c'est la barbarie, la monstruosité et l'abomination. C'est faire succomber et c'est succomber. Il est écrit en Vaïkra 19.18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et en Jean 13.34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nouveau veut dire « nouveau pour vous qui ne connaissez pas ». Les disciples ne savaient pas aimer, puis ils ont appris, et ils ont reçu la loi de Vaïkra 19.18. Comme on reçoit un enseignement de mathématiques ou de sciences. Il est écrit en Jean 15.10-12. Si vous gardez mes commandements que je vous ai enseignés, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit, ou transmis, ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les commandements enseignés par Jésus sont les lois de la Torah qui sont exprimées dans les évangiles différemment des consignes originelles afin d'instruire. Le style du texte amène comme précision le fait que l'original est toujours la référence. L'ordination présente différentes formes selon les groupes plus ou moins proches ou éloignés du sens sacerdotal exposé par la Torah. Rabbin, prêtre, imam, ministre, etc. Le sens originel est que celui qui est ordonné devient lévite, et éventuellement Cohen, et il a pour rôle de participer au service du temple, qui est le corps, en maintenant la cohésion de la vie et de la société grâce à la gestion de l'administration de l'aide et de la justice auprès des malades, des pauvres et des victimes de préjudices. En d'autres termes, le rôle de l'ordination est de fabriquer ceux qui ont la responsabilité de faire en sorte que la loi, bonne et juste, soit respectée. En Shemot 28.3, il est écrit « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » Le mot hébreu traduit par « sacerdoce » est « kahan »,« kaf et nun », qui veut dire « servir de médiateur », »,« agir en tant que prêtre », »,« être un pont », entre l'inconnu et le connu, et il s'agit de la nature humaine et de la nature de ce qu'on nomme le divin, et qu'en science on nomme l'univers et le vivant. Une lettrique de ce mot serait « force du souffle du pouvoir ».